Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en Terre de Couleur. Une émission réalisée par Corinelle. En Terre de Couleur vous propose de flâner sur les traces d'un peintre à travers son histoire, son œuvre, ses musées. Je vous souhaite un agréable voyage dans l'univers de la peinture et spécialement pour cette série, au cœur de l'impressionnisme. Une touche de jaune de cadmium, un trait de Carmen Garance, une pointe de bleu de Prusse, un soupçon de blanc de titane, et voilà, la palette est prête. Prenons nos pinceaux, la toile encore vierge, et posons notre chevalet en terre parisienne. Bienvenue chez Oscar-Claude Monet. Peintre français, Paris 1840, Giverny 1926. Rappelez-vous, nous avions laissé Monet à Paris se rendre à l'atelier du peintre académique Charles Glaire en 1862.
Le maître.
C'est grâce à son cousin par alliance, du côté des Lecadre, Auguste Toulmouche, peintre médaillé du Salon de 61, qu'il rentre chez Glaire. Peintre conventionnel, consciencieux, il dirige l'école impériale des Beaux-Arts de Paris. Charles Glaire, dont le tableau « Les illusions perdues » fut un succès au Salon de 43, acheté par l'État pour le musée du Luxembourg, laisse beaucoup de liberté à ses élèves. Il leur enjoint de peindre directement sur le motif, en plein air, en retranscrivant les impressions premières. C'est ainsi que Monet, en compagnie de Frédéric Basile, de Pierre-Auguste Renoir, d'Alfred Sisley, de Ludovic Napoléon Lepic, vont poser leur chevalet en forêt de Fontainebleau, à Chailly-en-Bière, près de Barbizon. Nous avons là le futur noyau du mouvement impressionniste. L'amitié qui lie ces jeunes gens durera toute leur vie. Dans une lettre à sa mère en 63, Basile raconte.
Je suis allé passer 8 jours au petit village de Chailly. J'étais avec mon ami Monet du Havre, qui est assez fort en paysage. Il m'a donné des conseils qui m'ont beaucoup aidé.
Il peigne dans la tradition des réalistes, tels que Corot, Rousseau, Daubigny, maître du paysage. Monet nous lèguera en 65 le pavé de Chailly au musée d'Orsay. Auguste Toulmouche garde toujours un œil sur son cousin. D'ailleurs, son atelier se situe dans la même rue que celui de Glaire. Il n'hésite pas à rendre des comptes à Jeanne Lecadre au sujet de Claude parti à la campagne avec Basile. Un jour, Monet déclare dans une lettre à Armand Gauthier.
Je viens de recevoir une lettre de Madame Lecadre, la femme du médecin qui a vu Toulmouche, lequel me fait dire par elle qu'il ne faut pas, en aucune façon, rester longtemps à la campagne, que c'est une faute grave.
La galère.
Dans leur groupe, Monet d'apparence bourgeoise est surnommé le dandy. Renoir raconte.
Il n'avait pas le sou et portait des chemises à poignées de dentelle.
Pourtant, chez Renoir et Monet, qui habitent parfois ensemble, ce n'est pas le grand luxe. Ils ont juste de quoi se payer du charbon, le loyer, un modèle, et ne mangent pas tous les jours à leur faim. Parfois, pendant un mois, il n'y a que des haricots ou des lentilles au menu, afin d'économiser pour l'achat de combustible pour le poêle. Mais Renoir ne garde pas un mauvais souvenir de cette période ingrate.
Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Il faut dire que de temps en temps, Monet dégotait une invitation à dîner et nous nous empiffrions de dindes truffées arrosées de champagne.
Voyage en terre de couleur.
L'année 1863 voit le décès du peintre Eugène Delacroix. Ingres expose au Salon des Refusés le bain turc. Situé dans les annexes du salon officiel du Palais de l'Industrie, Monet y découvre le déjeuner sur l'herbe d'Édouard Manet, qui fit scandale à l'époque et dont il se souviendra 2 ans après pour son tableau du même nom. Claude parcourt aussi le Louvre, admirant les maîtres anciens. De temps en temps, il retourne en Normandie, alors que Basile descend sur Montpellier. Au printemps 64, il sillonne avec son ami la côte normande, Honfleur, Rouen, Sainte-Adresse. Il retrouve Boudin, Yonking et séjourne à la ferme Saint-Siméon. Monet expose un tableau de fleurs à Rouen. Frédéric retourne à Paris, tandis que Claude reste à peindre en Normandie. Il travaille avec acharnement en pleine nature, malgré les difficultés financières et les brouilles familiales, menaçant de lui couper les vivres. Durant l'été, Charles Glaire doit fermer son atelier pour raison de santé, car il perd la vue. Tout compte fait, Monet y a été un élève très peu assidu. De retour à Paris, Basile l'invite dans son atelier du 6 rue de Fürstenberg. Il y retrouve Camille Pissarro en compagnie de Paul Cézanne.
Premier succès.
2 toiles d'Oscar Claude sont acceptées au Salon de 65. La pointe de la Ève à Marie Basse, Kimball Art Museum, Fort Worth, Texas, et l'embouchure de la Seine à Honfleur, à Los Angeles. Elles sont remarquées par le critique d'art Paul Mans de la Gazette des Beaux-Arts.
Ces travaux sont certes d'un débutant, il leur manque la finesse que seule procure une longue étude, mais le sentiment de l'harmonie des couleurs dans le jeu des tonalités apparentées, le sens des valeurs tonales en général, la remarquable intensité de l'ensemble, un regard audacieux, la capacité à voir les choses et à guider le regard des autres, telles sont les qualités présentes au plus haut degré de M. Monet. Nous suivrons les travaux de ce peintre de valeur avec le plus grand intérêt.
Les deux tableaux, aux tonalités sombres, dont la lumière filtre à travers les nuages d'un ciel immense pour la pointe de la Hève, sont très proches des peintres réalistes qui étudiaient la nature en forêt et terminaient en atelier leur œuvre. Ce salon réunit pour la première fois Manet et Monet. Manet est contrarié qu'un autre porte presque le même nom que lui. Claude Monet a des ambitions et veut faire son entrée au salon officiel en étant remarqué.
Le déjeuner sur l'herbe.
Rappelez-vous, 2 ans plus tôt, Monet découvrait Manet à travers sa toile Le Bain, dit Le déjeuner sur l'herbe, représentant une femme dévêtue en compagnie de 2 hommes habillés, en train de pique-niquer dans une clairière. Monet veut surpasser son aîné, et son déjeuner sur l'herbe aura pour dimension 4,60 m sur 6 m, avec des personnages habillés cette fois. Il joue sur les contrastes d'ombre et de lumière, des robes à crinoline. En avril 65, il revient à Chailly commencer son tableau dans la forêt de Fontainebleau et demande à Basile de venir poser et l'aider. Il lui écrit alors
« J'ai bien envie que vous soyez là. Je voudrais votre avis sur le choix de mon paysage pour mes figures. »
Frédéric Basile finit par arriver, mais Claude se blesse à la jambe. Son ami l'immortalise sur la toile l'ambulance improvisée au musée d'Orsay, Paris. Devant les critiques de Courbet venus voir son œuvre et le conseiller, Claude Monet renoncera à la présenter au salon de 66.
Camille Doncieux.
Afin d'être présent au salon, Claude Monet peint quelques paysages, dont le pavé de Chailly et un portrait en pied, Camille ou la femme à la robe verte, toile de 2,31 m sur 1,51 m, au musée de Brême. Ce tableau représente Camille Doncieux, son modèle et sa première épouse par la suite. Née à Lyon le 15 janvier 1847, elle travaille à Paris comme modèle de Renoir, de Manet et aussi de Monet rencontré en 65. Peu d'informations, de photos sur cette famille et sur Camille Léonie entre autres, due certainement à la jalousie d'Alice Ochédé, seconde femme de Monet. Sur le tableau, elle est représentée de dos, se retournant, drapée d'une veste sombre, brodée de fourrure sur une jupe longue, verte, rayée de bandes sombres. Les plis de l'étoffe sont d'une saisissante réalité. Le rendu du tissu rappelle ceux de Véronèse. La toile sera achetée par Arsène Housset, directeur de la revue L'Artiste. La critique est élogieuse.
Voyez la robe, elle est souple et solide, elle traîne mollement, elle vit. Elle dit tout haut qui est cette femme. Ce n'est pas une robe de poupée, un de ces chiffons de mousseline dont on habille les rêves. C'est de la bonne soie.
Le critique d'art, Émile Zola, s'exclame.
En vérité, voilà un tempérament. Enfin un homme parmi la foule des eunuques.
Claude Monet est insensé. Des jeux de mots sur les noms Monet, Manet fusent. Comme Zola qui déclare dans l'événement.
Monet ou Manet? Monet. Mais c'est à Manet que nous devons ce Monet. Bravo Monet. Merci Manet.
Devant cet enthousiasme, son père décide de l'aider à nouveau. Malheureusement pas pour longtemps, comme nous le verrons par la suite. Claude décide de continuer sur des grandes figures. C'est ainsi qu'il se lance près de Ville d'Avray dans la réalisation de Femmes au jardin d'un grand format, maintenant au musée d'Orsay. Camille lui sert de modèle pour 3 des personnages. Le jury du salon de 67 refuse cette toile ainsi que le port de Honfleur.
Voyage en terre de couleurs.
Monet est de plus en plus dans la misère. Revenu à Paris début 67, il travaille avec Renoir et Sisley dans l'atelier de Basile, 20 rue Visconti. En compagnie de Renoir, il décide de peindre des vues de la ville, du balcon du 2e étage du palais du Louvre. C'est ainsi qu'il nous lègue une vue de l'église gothique de Saint-Germain-l'Auxerrois. Par une matinée lumineuse, la foule se masse sur le parvis, à voir au musée de Berlin. Autre tableau, le jardin de l'Infante de 67, musée d'art d'Oberlin dans l'Ohio, c'est un Paris moderne reconfiguré par Georges Haussmann qui est en train de naître. En effet, le gouvernement a chargé l'administrateur français, préfet de la Seine depuis 1953, des travaux d'assainissement et d'embellissement de la ville. De grandes avenues rectilignes voient le jour, ainsi que des parcs, comme le parc Monceau, le bois de Boulogne, de Vincennes, puis la gare du Nord, la place de l'Étoile, pour ne citer que.
Encore des années d'infortune.
À l'automne 67, Monet quitte Ville d'Avray, poursuivi par les créanciers, et lacère l'Étoile qu'il ne peut emporter. De retour au Havre, il demande à Basile de lui envoyer les tableaux laissés à Paris, afin de s'en servir pour d'autres compositions. Basile lui achètera, Femmes au jardin début 68, 2500 francs, payables par mensualité de 50 francs. Il lui déclarera
« Je sais au contraire, mieux que personne, la valeur du tableau que je vous ai acheté, et je regrette fort de ne pas être assez riche pour vous faire de meilleures conditions. »
Entre-temps, Claude a dû abandonner Camille enceinte à Paris, afin de garder le soutien financier de son père. Sa famille condamne cette relation avec la jeune femme d'origine modeste. Monet, démuni, passe l'été dans la villa de sa tante à Sainte-Adresse. Il feint de rompre avec Camille. Pourtant, son père est plutôt mal placé pour lui faire la morale. En effet, Adolphe Monet a une fille naturelle, Marie, née le 3 janvier 60 de Célestine Vatine, domestique de la famille. Le mariage aura lieu discrètement 10 ans plus tard. Claude écrit à Frédéric Basile qu'il a une vingtaine de tableaux en cours.
Des marines étourdissantes, des figures, des jardins, et enfin parmi mes marines, je fais les régates du Havre avec beaucoup de personnages sur la plage.
À voir le magnifique tableau coloré, Terrasse à Sainte-Adresse, au Metropolitan Museum of Art de New York.
Naissance.
Ces lettres révèlent aussi son inquiétude au sujet de Camille enceinte. Le 8 août 67, restée seule à Paris dans une chambre misérable, elle accouche, aidée par un étudiant en médecine, Ernest Cavadet, d'un garçon, Jean-Armand Claude Monet. Basile est seul à son chevet. Monet, désargenté, désespéré, ne peut quitter la Normandie. Il en appelle à la générosité de son ami et le choisit comme parrain de son fils, baptisé en avril 68, avec Julie, compagne de Pissarro, pour marraine. Oscar Claude est toujours à vagabonder d'un endroit à l'autre, à fuir les créanciers. Revenu à Paris, Basile lui prête son atelier. Il abandonne de nouveau Camille l'hiver 67 pour peindre des marines au Havre en vue du prochain salon de 68. Une seule y figurera grâce à Charles Daubigny, membre du jury. Il s'agit de « Navire sortant des jetées du Havre », toile aujourd'hui disparue. L'autre tableau refusé fut la jetée du Havre par mauvais temps, collection particulière. Laissons donc Claude Monet en Normandie et dirigeons-nous du côté du musée.
Du côté du musée.
Revenons au déjeuner sur l'herbe au musée d'Orsay. La toile, conçue à Chailly, puis Paris, va passer par Ville d'Avray, revenir à Paris, puis Bennecourt, Bougival, Louveciennes chez Pissarro pendant la guerre de 70, avant d'être retrouvée en 72 et transportée à Argenteuil. En 78, lors d'un déménagement hâtif de Monet, le propriétaire garde le tableau dans sa cave en gage pour loyers impayés. En 1884, le créancier tient la toile à disposition contre remboursement. Monet, qui récupère alors son œuvre, découvre qu'elle est endommagée par les moisissures et la découpe en 3 morceaux. Aujourd'hui, il nous reste la partie gauche avec 3 silhouettes debout et la partie centrale représentant le pique-nique sur la nappe. Le fragment de droite, avec Basile allongé au sol, un homme contre un arbre et une femme assise au premier plan, a disparu. Heureusement, de petites études ont été esquissées, dont une nous donne une version du tableau définitif, à voir au musée Pouchkine de Moscou. Autre anecdote, concernant cette fois Femmes au jardin, également au musée d'Orsay. 4 femmes posent dans ce jardin, habillées de belles robes d'époque dont Monet prenait les modèles dans les magazines de mode. À propos des dimensions du tableau, 2,55 m sur 2,05 m, Monet déclare
« J'avais creusé un trou dans la terre, une sorte de fossé, pour enfouir progressivement ma toile quand je peignais le haut. »
Ainsi, il pouvait être à la hauteur des visages qu'il exécutait. Le tableau sera terminé l'hiver suivant à Honfleur. Notre voyage se termine pour aujourd'hui sur la carrière débutante de Claude Monet. Je vous invite à le poursuivre très prochainement vers sa période impressionniste sur cette même antenne. Voyage en terre de couleurs, un programme Maurice Clément Fèvre, technique, participation, Pascal Laurière.